Je vis ensuite, sur le mur de pierre de l'édifice en question, au-delà de la colonne de l'adorable Trinité, une autre colonne, grande et ombragée, qui se voyait du dedans et du dehors de l'édifice. Et cette colonne m'apparut tellement dans l'ombre que je ne pouvais en connaître ni la grandeur, ni l'élévation. Et entre cette colonne et la colonne de l'adorable Trinité, il y avait un intervalle de 3 coudées, où le mur était interrompu. Il n'y avait que les fondations réitère, comme cela a été montré précédemment. Or, cette colonne ombragée était dans ce même édifice, à la place où j'avais vu d'abord, dans les célestes mystères devant Dieu, cette grande lumière en carré de la plus vive splendeur, qui m'a manifesté, sous la plus grande réserve, le secret du Dieu créateur. C'est aussi dans cette lumière que m'apparut une autre splendeur, semblable à l'aurore, qui brillait en elle-même, dans les airs d'une clarté toute céleste et couleur de pourpre, et qui m'a montré, par une révélation symbolique, le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu. Et dans cette colonne, depuis le haut jusqu'en bas, il y avait une échelle où toutes les vertus de Dieu descendaient et montaient, chargées de pierres, allant à leur ouvrage avec un zèle qui montrait l'intention de le parfaire. Et j'entendis le jeune homme éclatant qui siégeait sur le trône dire « Voilà les courageux ouvriers du Seigneur !» Mais entre ces vertus, j'en remarquai 7, dont je considérais la forme et le costume. Voici d'abord leur ressemblance. Toutes, comme les vertus dont il est parlé plus haut, avaient des vêtements de soie, et toutes, elles avaient leur tête ornée de cheveux blancs, et elles s'avançaient sans manteau, excepté la première, qui avait la tête voilée, à la manière des femmes, et elle était revêtue d'une chasuble éclatante comme le cristal. La seconde avait des cheveux noirs, et la troisième ne paraissait pas avoir de forme humaine. La première, la troisième et la cinquième étaient revêtues de tuniques blanches. Toutes avaient des souliers blancs, excepté la troisième, qui n'avait pas de forme humaine, comme nous l'avons dit, et la quatrième, qui était chaussée de brodequins extrêmement brillants. Voici maintenant en quoi elle différait. La première image portait une couronne d'or sur sa tête, surmontée de 3 rameaux, et brillant de toutes sortes de pierreries et de perles fines. Elle avait sur son cœur un miroir très pur, au milieu duquel apparaissait, dans une grande clarté, l'image du Fils de Dieu incarné. Et elle disait « Je suis l'appui des humbles et le désespoir des cœurs superbes. J'ai eu de faibles commencements, et je me suis élevé jusqu'aux sublimités du ciel. » Lucifer a voulu s'élever dans les hauteurs, au-dessus de lui-même, et il s'est ravalé dans les profonds abîmes. Quiconque voudra m'imiter dans le désir qu'il a d'être mon fils, s'il brûle d'accomplir en moi mon œuvre, en m'embrassant comme sa mère, qu'il commence par les fondations, et qu'il s'élève, petit à petit, jusqu'aux sublimes hauteurs. Qu'est-ce à dire? Qu'il jette d'abord les yeux sur l'avilissement de sa chair, et qu'il s'avance avec douceur et suavité, de vertu en vertu, jusqu'au degré de la perfection. Car celui qui, pour monter sur un arbre, veut d'abord atteindre la branche la plus haute, risque de tomber d'une chute inattendue. Mais celui qui, voulant y monter, commence par le tronc, court moins de danger de tomber s'il agit avec précaution. Et la seconde image apparaissait tout entière avec une robe qui, dans sa forme et ses plis, reflétait l'hyacinthe comme l'azur des cieux. Et sur cette robe étaient adaptées d'une manière ineffable 2 ceintures admirablement ornées d'or et de pierreries, en sorte que ces 2 ceintures descendaient de l'une et de l'autre épaule de cette image, en avant et en arrière, jusqu'aux pieds. Et elle dit, J'étais poussé dans le ciel à m'irriter contre Lucifer, se mordant lui-même dans sa haine et son orgueil. Mais non, oh non, l'humilité n'a pu tolérer son insolence. C'est pourquoi il a été entraîné dans une affreuse ruine. Et après la création de l'homme, ô quelle illustre semence, ô quel précieux germe, le Fils de Dieu, par amour pour l'homme, s'est rendu semblable à lui vers la fin des temps. Et parce que Lucifer a voulu et essayé de déchirer ma tunique et l'intégrité de mon vêtement, je suis devenue tout éclatante de lumière devant les hommes et devant Dieu. Or, maintenant, les aveugles, les morts, les impudiques et les courtisanes traitent d'infâme ma conduite en apparence incertaine. Mais il est aussi impossible que la boue puisse atteindre le ciel, que cette honte puisse attaquer ma volonté. Je me ferai donc des ailes avec les autres vertus, pour rejeter sur Lucifer ces vaines paroles qu'il a semées par le monde. Ô vertu, qu'est devenu Lucifer, l'enfer et son séjour? Levons-nous donc toutes en nous rapprochant de la vraie lumière et construisons de grandes et fortes tours dans les provinces, afin que, lorsque le dernier jour viendra, nous remportions beaucoup de fruits, autant pour l'âme que pour le corps. Et lorsque la plénitude des nations sera introduite dans l'Église, alors nous nous rendrons parfaits, et sur la terre, et dans les cieux. Ô Lucifer, de quoi t'a servi ta soudaine audace? À peine avais-tu reçu de Dieu ta première splendeur, que tu as cherché dans ta folie, dans ta fureur, à me fouler aux pieds, à me chasser du ciel. Mais tu as été précipité dans l'abîme, et je suis resté dans le ciel pour descendre ensuite sur la terre avec le Fils de Dieu incarné. Par moi s'est formée une multitude de fidèles armés pour la justice et les bonnes institutions, que tu aurais bien voulu leur enlever si tu en avais eu la puissance. Ô humilité, qui relève jusqu'aux astres ceux qui sont foulés, écrasés à terre. Ô humilité, ô glorieuse reine de toutes les vertus, qu'il est fort, qu'il est invincible pour tous tes partisans et en tout lieu ton secours. Non, celui qui te chérit dans un cœur pur ne fait point de chute, et je suis avec toi pour ce que je protège, une défense très avantageuse et la plus désirable. Car, étant doué d'une délicatesse et d'une finesse extrême, je parviens à trouver les passages les plus étroits de ceux qui me recherchent et à les traverser avec adresse. Je vis la troisième image dans le même costume qu'elle avait dans une première vision. Elle surpassait en hauteur, comme en étendue, les autres vertus. Elle n'avait aucune forme humaine. Elle était toute entourée d'yeux. Elle était toute vivante de sagesse et revêtue d'un sombre vêtement à travers lequel les clairvoyants pouvaient regarder. Et elle était toute tremblante devant cette lumière éclatante qui siégeait devant le trône. Et elle disait « Ô malheur aux misérables pécheurs qui ne craignent pas Dieu et qui le regardent comme un trompeur ! Qui peut échapper à la crainte du Dieu incompréhensible ? Il laisse périr le coupable qui s'abandonne à l'iniquité. Oh, je vais craindre, et craindre encore le Seigneur Dieu. Qui pourra me secourir devant le vrai Dieu ? Qui pourra me délivrer de son terrible jugement ? Personne au monde, si ce n'est ce Dieu juste, lui-même. C'est donc lui que je chercherai. C'est à lui que j'aurai sans cesse recours. » La quatrième image portait à son cou un collier blanc et avait aussi les mains et les pieds liés avec une chaîne blanche. Et elle disait « Je ne puis courir où je veux sur cette terre, ni me laisser diriger par les mauvais vouloirs de l'humaine faiblesse. Et c'est pourquoi je désire revenir à Dieu, le Père de toute créature, que le démon a renié pour ne pas lui obéir. » La cinquième image avait à son cou un collier rouge, et elle disait « Il n'est qu'un seul Dieu en trois personnes, d'une seule essence, et digne d'être adoré d'une gloire égale. J'aurai au Seigneur foi et confiance, et je ne perdrai jamais son nom dans mon cœur. » La sixième image était revêtue d'une tunique pâle, et la croix de la Passion du Fils de Dieu crucifié lui apparut dans les airs, et elle dirigeait vers elle ses yeux et ses mains avec une grande dévotion, et disait « Ô Père très pieux, pardonnez aux pécheurs, vous qui ne les avez pas laissés s'égarer, mais qui les avez rapportés sur vos épaules. Et c'est pourquoi nous ne pouvons périr, nous qui avons mis en vous notre confiance. » La septième image était revêtue d'une tunique du plus éclatant et du plus pur cristal, brillant de la vivacité de l'eau qui reflète les rayons du soleil. Au-dessus de sa tête était une colombe aux ailes déployées, qui avait sa tête tournée vers elle. Il apparut sur ses flancs, comme en un miroir, le plus bel enfant, qui avait inscrit sur son front « Innocence ». Elle avait dans sa main droite le sceptre royal, et elle portait sa main gauche sur sa poitrine. Elle disait « Je suis libre et n'ai point d'entrave. J'ai passé à la fontaine la plus pure, auprès du plus doux et du plus aimant Jésus, Fils de Dieu. Je l'ai pénétré, et c'est de son cœur que je suis sorti. Je foule aux pieds le démon qui n'a pu m'enchaîner. Il a été chassé loin de moi, parce que je suis toujours avec le Père Céleste. » Et, au haut de la colonne ombragée dont il est question, je vis une magnifique image, ayant la tête nue, les cheveux crépus et bruns, et son visage, mâle comme celui d'un homme, était d'une clarté si éblouissante que je ne pouvais y jeter les yeux. Et elle était revêtue d'une robe rouge foncée, et sur chaque épaule de cette image était une ceinture d'un jaune foncé, adaptée sur la tunique, et qui descendait en avant et en arrière de la tête aux pieds. Elle avait agrafé à son cou le manteau royal, admirablement parsemé d'or et de pierreries les plus précieuses. Et la divine splendeur si brillante l'environnait à tel point que je ne pouvais la considérer nulle part, si ce n'est par devant, de la tête jusqu'aux pieds. Mais ses bras, ses mains, ses pieds étaient cachés à mes regards. Mais la même splendeur qui l'entourait était remplie d'yeux, de tous côtés, était toute vivante, et se répandait çà et là, comme un nuage se répand, apparaissant tantôt plus, tantôt moins étendu. Et cette même image s'écria d'une voix forte par le monde. « Ô mes fils, je suis la grâce de Dieu. Entendez-moi donc et comprenez-moi. C'est moi qui donne la lumière de l'âme à ceux qui comprennent mes avertissements. Et je les retiens dans le même bonheur, de peur qu'ils ne retombent dans le péché. Et parce qu'ils ne m'ont point méprisé, j'ai à cœur de les toucher par mes exhortations, afin qu'ils opèrent le bien. Et je me donne à eux parce qu'ils me recherchent dans la simplicité et la pureté de leur cœur. Et lorsque je donne ainsi des perles, avertissant et exhortant l'homme sur le bien qu'il doit pratiquer, alors, son intelligence étant touchée, je suis en lui le commencement de la vertu. » C'est-à-dire que l'essence de l'homme, comprenant mon exhortation par l'entendement, de manière à consentir au bonheur de ma grâce qu'il ressent au fond du cœur, je suis en lui le commencement du bien qu'il doit entreprendre avec mon secours. Mais en lui est une lutte pour accomplir ou non ce que je lui conseille. et j'entendis celui qui siégeait sur le trône me dire « Il faut que ceux qui aspirent aux choses du ciel croient fidèlement et n'examinent pas avec ténacité que le Fils de Dieu, envoyé par le Père dans le monde, est né d'une vierge, parce que le sens de l'homme appesanti dans son corps fragile et mortel du poids énorme de ses péchés, ne peut pénétrer les secrets de Dieu qu'autant que l'Esprit Saint le fait connaître à l'homme de son choix. »